Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 27 Aban, 1400 du calendrier iranien, 18 novembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite les déclarations du leader de la révolution islamique. Les déclarations du guide suprême de la révolution islamique. Conversation téléphonique du président iranien avec le premier ministre irakien. Et Téhéran met en garde contre un retour des terroristes en Afghanistan. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Lors d'une audience accordée aux élites et aux universitaires du pays, le guide suprême de la révolution islamique a évoqué le pillage des richesses des nations, notamment en ce qui concerne le pillage de leurs richesses intellectuelles. Le guide suprême de la révolution islamique a averti qu'une partie importante de la guerre douce qui est et qui a toujours été menée par les colonialistes consiste à rendre une nation ignorante et indifférente envers ses talents ou de la pousser à nier ses talents. Un extrait des déclarations du guide suprême de la révolution islamique vous sera présenté à l'issue de ce journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré au premier ministre irakien que les ennemis des nations de la région ne toléraient pas la stabilité et le progrès des pays arabes. Les ennemis cherchent à faire avancer leurs propres objectifs sinistres par la sédition, a déclaré M. Raisi à Mustafa Al-Kazemi lors d'un appel téléphonique, ajoutant que tous les pays devraient donc rester vigilants face à de tels complots. Le président Raisi a déclaré que la position inébranlable et de principe de l'Iran concernant l'Irak consiste à soutenir l'indépendance et la souveraineté du pays. L'Iran se tient toujours aux côtés du peuple et du gouvernement irakien, a-t-il déclaré, ajoutant que l'unité et l'intégrité de l'Irak font partie des facteurs de la sécurité nationale iranienne. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, doit visiter Téhéran lundi 22 novembre, selon l'envoyé par intérim de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Mohammad Reza Ghaibi. Lors de sa conférence de presse il y a deux jours, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a évoqué une visite imminente à Téhéran du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a déclaré qu'au cours de sa visite dans la capitale iranienne, Grossi rencontrera le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le président de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami. L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré qu'il fallait veiller à ce que le territoire afghan ne soit jamais utilisé pour des activités terroristes. La situation humanitaire est très préoccupante et à l'approche de l'hiver, le peuple afghan est confronté à une crise humanitaire imminente, a déclaré Majid Tahteravanchi, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran, lors de la réunion mercredi du Conseil de sécurité. Il a également déclaré que l'Iran, en tant que pays voisin ayant les liens historiques, culturels, linguistiques et religieux avec l'Afghanistan, ne peut rester indifférent aux problèmes du peuple afghan. Le représentant de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que les récentes attaques terroristes en Afghanistan étaient très préoccupantes, ajoutant que la formation d'un gouvernement inclusif et élu, avec la participation de tous les groupes ethniques et religieux engagés dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et garantir et protéger les droits du peuple sur la base des droits de l'homme pour tout le peuple afghan, y compris toutes les ethnies et langues, les minorités et les femmes, est vital pour construire un Afghanistan sûr, stable et prospère. L'Organisation des Nations Unies affirme que les exécutions sommaires de 10 prisonniers yéménites par des mercenaires saoudiens étaient erronées et que les auteurs doivent être traduits en justice. Monsieur Dujarric a souhaité que toutes les parties adhèrent pleinement aux lois internationales humanitaires et relatives aux droits de l'homme en toutes circonstances. Le gouvernement de salut national du Yémen a également pesé sur les exécutions, qualifiant cette décision de crime de guerre et de violation flagrante du droit international humanitaire. Une coalition dirigée par l'Arabie saoudite mène une guerre contre le Yémen depuis 2015, après l'éviction du président en fuite de l'époque, Mansour Hadi. Des centaines de milliers de Yéménites ont été tués et des millions d'autres déplacés depuis le début de la guerre au Yémen. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter un extrait du discours du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Lors d'une audience accordée aux élites et aux universitaires du pays, le leader de la révolution islamique a évoqué l'une des cartes sans cesse exploitées par les ennemis des États-nations souverains de la région contre celle-ci, à savoir le pillage de leurs richesses intellectuelles. Pour l'honorable Ayatollah Khamenei, le fait que les jeunes talents quittent le pays est une trahison à la fois contre l'État et la nation, mais encore contre l'intéressé lui-même. De nature talentueuse, la nation iranienne n'a cessé, justement pour cette même raison, de faire l'objet d'un long software qui consiste à la pousser à l'autodénigrement et à se sous-estimer et à passer à la trappe ses propres talents et capacités, à les renier même et à finir par croire ce méga mensonge que nous ne pouvons pas. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a mis en garde la communauté d'élite scientifique iranienne contre la guerre douce menée par les puissances coloniales, dont le but est de rendre les nations indifférentes ou ignorantes envers leurs talents et de préparer le terrain au pillage des ressources des nations. Le leader de la révolution islamique est revenu sur le livre du mémoire de Nehru, l'une des figures de proue de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, et dit « Il reconnaît les efforts directs et indirects des Britanniques pour effacer le sentiment de confiance en soi du peuple indien et sa conviction en ses propres capacités intellectuelles. » Ces deux derniers siècles, les colonialistes et les dirigeants qui leur ont été inféodés n'ont pas cessé de distiller ce sentiment d'incapacité et ce ne fut que la révolution islamique qui y a mis un terme. Le leader de la révolution islamique a averti qu'une partie importante de la guerre douce, qui est et a été toujours menée par les colonialistes, consiste à rendre une nation, soit notre nation ou toute autre nation talentueuse, ignorante et indifférente envers ses talents, ou de la pousser à nier ses talents. Lorsqu'une nation est dans un état d'ignorance par rapport à ses propres capacités, il devient facile pour les colonialistes de piller les ressources de cette nation, car l'ignorance et le pillage vont de pair, a ajouté l'honorable Ayatollah Khamenei. Se référant au noble Coran, le leader de la révolution islamique a déclaré « Dans le Coran, Dieu avertit que l'ennemi veut vous faire ignorer vos armes et vos biens afin de vous attaquer facilement. Il est important aujourd'hui de le savoir, étant donné les pressions et le tapage médiatique contre l'Iran au sujet de moyens de défense de la République islamique. » L'honorable Ayatollah Khamenei a ensuite salué le niveau élevé d'intelligence et de génie des Iraniens et a déclaré « En ce qui concerne le talent sous ses différents aspects, notre pays se situe au-dessus de la moyenne mondiale. » Et c'est un fait avéré. Et cela signifie que notre pays, ou plutôt notre nation, est potentiellement un génie. Le génie est une bénédiction divine. Ce qui fait un génie, outre le talent mental, c'est d'être reconnaissant pour cette bénédiction, a déclaré le leader de la révolution islamique. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que les responsables ont le devoir à remplir vis-à-vis de la communauté d'élite scientifique du pays et que la jeune élite devrait également se sentir responsable envers les intérêts de la patrie en surmontant les obstacles qui se dressent devant le processus du développement et du progrès de l'Iran. Le leader de la révolution islamique a en outre salué les progrès réalisés dans différents secteurs scientifiques et a déclaré « Aujourd'hui, d'importants projets scientifiques sont mis en œuvre dans le pays grâce à la créativité et des innovations de notre jeune élite scientifique. » L'honorable Ayatollah Khamenei a en outre exhorté l'élite scientifique à prêter attention à l'avenir du pays, la rappelant ses remarques d'il y a quelques années sur la nécessité pour l'Iran de devenir un pionnier des sciences et des technologies au niveau mondial. Nous devons agir de manière à ce que, dans un avenir relativement proche, l'Iran devienne une référence de science et de technologie dans le monde et que les élites d'autres nations ressentent la nécessité d'apprendre le persan pour avoir accès aux dernières découvertes scientifiques, a-t-il ajouté. Dans une autre partie de son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a qualifié l'intelligence artificielle de question importante en estimant que la jeune élite aura la capacité de placer le pays parmi les 10 premiers pays du monde dans ce domaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Après l'annonce de l'opération des forces navales du corps et des gardiens de la révolution islamique pour empêcher la marine américaine de pirater un pétrolier transportant du pétrole iranien dans la mer, demain, le personnel des forces spéciales et qui avait participé à cette opération et le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, commandant des forces navales du corps des gardiens de la Révolution, ont rencontré le général de Dion Hossein Salami, commandant de la Révolution islamique. Et c'était en fait au cours de cette rencontre que le général de division Hossein Salami a qualifié la mission des forces navales iranienne de guerre propre, sans mots ni blessés, menée à temps et réalisée avec plein succès. Dans le même temps, il y a eu ces déclarations ô combien importantes du général de brigade de Haji Zadeh. Le général Haji Zadeh qui est revenu en fait sur cette riposte donnée par l'Iran à l'assassinat du général et du corps d'armée, le général martyr Qassem Soleimani par les États-Unis. En fait, c'était en y réagissant que le corps des gardiens de la révolution islamique, vous en souvenez, a en fait lancé une attaque foudroyante contre la base US américaine en territoire irakien, la base Ayn al-Assad, et le général Haji Zadeh a été également interrogé sur la riposte de l'Iran aux agissements du régime israélien. Nous allons revenir sur cette partie de ces déclarations au cours de notre émission d'aujourd'hui également. Eh bien, pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir avec moi un juriste français spécialisé des questions internationales depuis Damas, maître Arnaud Develay. Maître Develay, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, maître Develay, c'est un spécialiste français des questions internationales, un très bon connaisseur également, maître Develay, des questions relatives à notre région qui est le Moyen-Orient, qui est avec moi, toujours comme vous, maître Develay, par Skype, mais depuis pas Damas, depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Norostin. Bonjour, M. Maître Arnaud Develay et bien sûr à vos auditeurs.
Monsieur Dortiguier, en fait, je viens d'évoquer le sujet, ces déclarations de ces deux hauts commandants militaires de l'Iran, et ces déclarations interviennent à un moment où les forces armées iraniennes ont tenu tout récemment d'importants exercices militaires. Dans le même temps, il y avait en fait dans l'autre camp également des exercices militaires qui avaient été organisés dans la région du Moyen-Orient, dans la région du Caucase également, des exercices militaires tenus par le régime israélien et ses alliés. Comment expliquez-vous en fait ce genre d'évolution, M. Dortiguier ?
Il s'agit là, bien sûr, d'une rivalité, si je puis dire, entre l'Iran et bien sûr et ceux qui veulent l'intimider, comme vous faites allusion au régime israélien dans ses exercices du Caucase, Je pense que la caractéristique de l'attitude iranienne est celle, vous l'avez indiqué dans la citation du premier responsable, c'est de faire d'abord une guerre propre. Et cette guerre propre et efficace est une manière aussi, disons, d'appliquer d'abord le fameux adage qui est ancien chez nous, si tu veux la paix, prépare la guerre, bien sûr. Mais ceci est dans le sens d'une consolidation de la paix, il faut le dire, par manifestation de la puissance iranienne. Et je crois que c'est là l'indication d'une maîtrise de soi. C'est une philosophie, si je puis dire, que nous avons observée dans la conduite et dans les explications que donnent les stratèges iraniens. Donc nous sommes sûrs qu'ils ne tomberont pas, que votre pays, votre patrie ne tombera pas dans des provocations, mais qu'elle fera au contraire reculer, comme elle l'a fait après la mort du général martyr, qu'elle fera reculer justement ce qu'on pourrait nommer, non pas en face des stratèges, mais des comploteurs, voyez, des gens qui en réalité sont attirés par le maintien d'un désordre, le maintien d'un chaos continu, et disons, se montrent agressifs en même temps qu'ils disent qu'ils sont eux-mêmes agressés. Ça, c'est une dualité, une ambiguïté, si je puis dire, de ces groupes, de ces groupes militaires et politiques, dont l'entité sioniste n'est qu'un échantillon, bien sûr. Mais je crois que l'attitude, la fermeté de l'Iran, la fermeté politique et militaire, par ses démonstrations de force, permet justement de conserver ou de maintenir, disons, un ordre local. Et je crois que ceci est bénéfique à tous et que ce qu'on a assisté jusqu'ici à l'exploitation des faiblesses que des pays d'Orient, que ce soit dans les anciennes guerres, l'ancienne guerre menée contre l'Égypte, la guerre qui a été menée contre la Syrie, cette faiblesse, disons, a été compensée par un esprit de sacrifice, un esprit également de discipline. Et je pense que l'Iran, pour revenir à votre pays, que l'Iran a donné, par ses chefs, ses stratèges militaires, dont le général Soleimani, a donné l'exemple justement d'une maîtrise de soi. Et je crois que nous avons évité précisément des scènes beaucoup plus dramatiques en Orient par justement la maîtrise de ces forces iraniennes. Et je crois que tous les pays, bien sûr, en tirent des conséquences, y compris les Américains. Je crois que les Américains, dans leur nouvelle stratégie, dans leur nouveau, n'ose pas dire un nouveau Yalta, mais enfin, dans le nouvel aménagement de leur stratégie en Orient, tiennent compte également de cette attitude iranienne. Et cela est très positif.
Merci beaucoup. Lorsque M. de Dortillier était en train, en fait, d'exprimer son avis, son analyse, vous avez découvert en fait les images de ces importants exercices militaires auxquels je viens de faire allusion tout à l'heure, et des exercices militaires qui avaient été organisés tout récemment par les forces armées iraniennes, exercices militaires au cours desquels divers types d'armements avaient été employés et testés. On va partir maintenant tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arne Devollet. Maître Devollet, votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, je partage tout à fait l'analyse du professeur Dortiguet en ce qui concerne la discipline et la patience et le sang-froid qui caractérisent la posture de la République islamique d'Iran et plus précisément du corps des gardiens de la Révolution. Je pense que dans ce contexte-là, on est en présence d'une ce qui a été appelé une stratégie de patience stratégique, de défense stratégique, qui laisse en fait les comploteurs, parce que c'est vraiment le mot qui s'applique, s'émoustiller tout seul, en effervescence futile, et en fait garder le silence et anticiper surtout tous les théâtres d'opération, mettre en place les mesures nécessaires pour contrecarrer tout ce qui peut être instrumentalisé dans un contexte, encore une fois, de déstabilisation continue. Tout en laissant entendre que au moindre faux pas et à la moindre, si je puis dire, au moindre aventurisme militaire plus ou moins frontal, La République islamique d'Iran a tous les moyens, et elle l'a démontré ces dernières semaines au travers des divers exercices, que ce soit les exercices maritimes, les exercices balistiques, mais aussi, in fine, si je puis dire, les exercices, les démonstrations de renseignements, qu'elle a tous les moyens à sa disposition pour faire valoir ses intérêts, défendre ses derniers et projeter la défense de ses intérêts où que ce soit, vous l'avez mentionné, dans la région du Caucase, bien sûr, mais bien sûr dans le golfe Persique et aussi dans la région, puisque l'Iran est maintenant, dans le nouveau format qui est en train d'émerger, un élément indispensable de stabilisation de la région. Et ce faisant, l'Iran se donne les moyens de sa politique étrangère, mais qui est en même temps intimement liée à sa souveraineté. On ne peut pas concevoir une souveraineté et une indépendance politique pour la République islamique d'Iran si cette dernière ne prend pas les mesures adéquates au vu de ce que la région a pu vivre depuis plusieurs années maintenant. Et la République islamique d'Iran a parfaitement compris la psychologie des comploteurs. Elle sait très bien que tout est fait pour lui faire commettre l'erreur fatale qui ensuite serait instrumentalisée par les médias aux ordres afin de justifier, si je puis dire, une attaque, mais qui ne serait pas forcément menée par les comploteurs eux-mêmes, mais instrumentalisée par ces derniers au travers de ces lobbies divers et variés, si je puis dire. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, nous assistons à une partie d'échec où, si je puis dire, le moindre mouvement peut avoir des conséquences globales, ou en tout cas régionales, et donc globales par extension. Et l'Iran est parfaitement conscient de ça. La République islamique d'Iran est le récipient de plusieurs millénaires d'expérience en matière militaire et en matière de stratégie et en matière de, si je puis dire, de bluff, puisque tout ça, c'est aussi une bataille de communication, une bataille de non-dit. Il y a beaucoup de choses que le public ne sait pas et qui pourtant sont constamment à l'œuvre. Et ce que nous voyons n'est que le type de l'iceberg, si je puis dire. C'est un combat de tous les instants qui requiert une concentration extrême et qui requiert aussi une capacité à anticiper et à imaginer de quelle manière les comploteurs peuvent ensuite avoir recours à tout un tas de techniques à plusieurs niveaux. C'est comme un billard à plusieurs bandes. Et en cela, la République islamique d'Iran est parfaitement formée, parfaitement au courant de toutes les techniques possibles et inimaginables, tout en mettant en avant sa capacité, encore une fois, à contrecarrer ses plans, quels qu'ils puissent être.
Merci beaucoup. Monsieur Dorsiguet, en fait, vous l'avez évoqué, moi aussi je viens d'y faire en fait allusion, en citant bien sûr le commandant chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Salami, qui avait qualifié en fait cette opération des forces armées iraniennes contre, si vous voulez, la marine américaine dans la région du golfe Persique, qui voulait en fait pirater un pétrolier qui transportait le pétrole iranien. Et le général Salami, toujours s'agissant de cette opération militaire, M. Dorsiguet, estime que de par cette opération, les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique ont réussi à imposer leur, si vous voulez, volonté à leur adversaire. C'est quand même une évolution importante qui vient de se produire dans la région du golfe Persique, n'est-ce pas, M. Dorsiguet ?
Oui, en effet. Il s'agit d'un renversement de situation, disons de position, pour exemple, qui est la même chose, à savoir que jusqu'à présent, c'était l'intimidation qui venait, bien sûr, ce qu'on peut dire des comploteurs, qui venait de ceux qui voulaient, disons, assaillir l'Iran, mais il le faisait par, disons, une série de pics ou une série de, disons, de, répétons-le, de provocations, en effet, qui plaçaient l'Iran sur la défensive. Or, aujourd'hui, il y a un retournement qui fait que l'Iran montre qu'il est capable de passer à l'offensive, vous voyez, tout en régulant et en maîtrisant ses forces. Et c'est-à-dire que c'est une question, je dirais, permettez-moi l'expression, et l'expression est commune, de guerre psychologique. Et je crois que l'Iran a atteint, a répondu, disons plutôt, à ses adversaires en faisant montre, preuve de maturité. Je ne dis pas de maturité au sens vulgaire, mais de maîtrise de soi. C'est une forme de courage qui est très difficile, je dirais, parce qu'elle n'est pas réellement spontanée. Et c'est une forme de courage qui implique des études, qui implique des réflexions continuelles, voyez-vous, sur le plan technologique et autres. Et c'est une sorte de guerre des nerfs, si on peut dire, oui. Mais en même temps, une guerre moderne, c'est-à-dire adaptée, disons, au niveau de notre technologie commune, c'est-à-dire commune à tous les pays. Je crois que l'Iran également est un exemple aujourd'hui pour d'autres nations qui se sentiraient atteintes dans leurs intérêts. Cette maîtrise de soi qui s'accompagne d'une démonstration de puissance. Je crois que ce n'est pas du tout contradictoire. C'est le signe de Maître de Velay d'Ali, le signe également d'une ancienne civilisation, il faut bien le dire. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Hein. Ce n'est pas en mettant deux ou trois chaises et un bureau que l'on fait un État, bien sûr. C'est avec une culture, une spiritualité, disons, qui est à la fois individuelle et populaire. Et je crois que ce sont ces armes-là dont dispose l'Iran, indépendamment des circonstances économiques, et qui sert de modèle, qui doit servir de modèle, lui, pas peu, à d'autres nations, y compris à nos nations européennes, voyez-vous, qui aujourd'hui ne pourraient pas, à notre avis, supporter les épreuves de l'Iran sur tous les plans. Je crois sur le plan psychologique, nous ne sommes plus capables, tout au moins en France, évidemment en premier, mais dans les pays des nations occidentales. Peut-être l'Allemagne, oui, parce qu'elle a déjà une longue épreuve derrière elle, ou l'Angleterre, mais je ne crois pas pour la France, ou l'Italie. Et ceci, nous en avons besoin. Si nous avouons ici nos propres faiblesses, c'est que justement, évidemment, nous cherchons quand même toujours, c'est propre de l'homme, si nous cherchons toujours la santé, et pour la prolongation de la vie. Eh bien, ceci, voyez-vous, est un souci commun à toutes les nations. De ce point de vue, je dirais que, je terminerai là-dessus, que l'Iran, par le progrès technologique qu'il a accompli, a donné au-delà, en déchirant les voies de la propagande, voyez-vous, contre lui, a montré, je dirais, un visage accessible, compréhensible à l'ensemble des nations et des gens honnêtes dans le monde qui veulent comprendre le fond de la situation. Je crois que l'Iran s'est révélé depuis ces dernières années, s'est révélé sous cette forme-là, et c'est une forme qui, bien sûr, va tout à fait à l'encontre de deux choses. Premièrement, du silence qui est autour de lui, car il y a eu l'agitation autour de l'Iran, mais la pire des agitations, c'est le silence que l'on fait, ici dans la presse, dans les médias, sur le niveau de technologie, la maturité du pays, et disons les choses simplement, sur l'antiquité de sa civilisation. Bon, je crois que ceci doit être redit, c'est le propre de la presse et de la vôtre, justement, de l'affirmer. Et je crois que cette guerre d'information fait également partie de cette guerre technologique, et surtout, tout ceci, si je conclurai là-dessus, doit conduire au découragement des fauteurs de troubles. Voyez-vous, des fauteurs de troubles spéculent sur la faiblesse et l'innocence de leurs adversaires. Il faut qu'ils se heurtent à une maturité. Et je crois que c'est aujourd'hui cette maturité dont fait preuve l'Iran et qui, naturellement, ne manquera pas, plus ou moins par différentes voies, de toucher notre peuple, en Afrique, en Asie, mais également, c'est notre premier souci d'Européens, en Europe.
Monsieur de Velay, est-ce que vous aussi vous estimez tout compte, monsieur d'Ortiguet, que l'Iran fait preuve de maturité en matière politique, également en matière militaire, d'autant plus que, par exemple, ces agissements militaires des sionistes, le général Hajizadeh, commandant de la force du corps des gardiens de la révolution des islamiques, a été interrogé sur ce sujet. Il a répondu, il arrive d'apprendre qu'ils essuient, c'est-à-dire des Israéliens, du régime israélien, des coups, eh bien, que des incendies éclatent sur leur navire et dans leur usine est bien vide. Cela me dit quelque chose. C'est-à-dire que l'Iran a toujours en fait riposté aux agissements militaires israéliens.
Oui, c'est très intéressant cette déclaration et cette dernière témoigne d'une confiance en ses moyens. Mais surtout, j'allais dire, au-delà de cela, au-delà de la maturité, au-delà du professionnalisme qui caractérise le corps, celui d'un attachement à certaines valeurs, et en cela je rejoins tout à fait le professeur d'Ortiguier, une sérénité, si je puis dire, non seulement dans les actes, mais aussi dans les déclarations qui ne sont pas si prolixes que cela quand on y pense. C'est pour ça que lorsqu'on entend des déclarations des hauts responsables du corps, elles ont d'autant plus d'impact qu'elles révèlent, in fine, si je puis dire, une sérénité et qui ne peut que s'appuyer sur une rectitude morale qui repose sur un attachement à tout un corpus qui a vocation, si je puis dire, à inspirer effectivement les autres pays qui pourraient être tentés par des tergiversations, des changements d'orientation plus ou moins ponctuels ici et là. La République islamique d'Iran, et en cela je suis aussi d'accord avec le professeur d'Ortiguier, depuis maintenant quelques années, démontre plus que toute autre chose un attachement et une constance dans sa vision de la région, sa vision du monde, qui repose sur des aspirations qui sont partagées par tous les peuples qui ont soif de liberté, à savoir la justice, le progrès et la dignité. Et ce sont des concepts qui semblent élémentaires comme cela, mais qui sont aujourd'hui tellement galvaudés dans cette vague de cynisme et de manipulation et de mensonges universels, qu'en cela, c'est rafraîchissant et les gens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, sont réceptifs à ce discours, à cette posture. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, au-delà des démonstrations militaires, bien sûr, et autres modes de dissuasion et autres nouvelles ponctuelles portant sur tel ou tel événement. Mais la ligne de fond, c'est quand même à la fin, effectivement, ultimement, cette ligne morale, cette rectitude, cet attachement à toute une architecture de valeurs qui est encore une fois... Je m'inscris dans ce que disait le professeur d'Ortiguier, nous aurions bien besoin en Europe et principalement en France.
Monsieur d'Ortiguier, un dernier mot. Selon Maître Develé, il y a cet attachement à des valeurs également chez les forces armées iraniennes.
Oui, en effet, c'est là une marque de rectitude qui est d'une culture et d'une nature. Culture islamique, culture religieuse, disons, je préfère dire culture religieuse. Quand je compare ce désert spirituel de la jeunesse française, par exemple, je veux dire ça, cette rectitude, je le dis, est une marque, disons, c'est une marque qui, pour nous, de l'ancienne génération, était commune. Quand on regardait les anciennes civilisations, quand on regardait même ce qu'on appelle les temps modernes et autres, mais surtout les cultures anciennes, c'était quelque chose dans lequel, disons, nous baignions autrefois, que ce soit dans les domaines militaires, domaines politiques, domaines religieux, etc. L'Iran a conservé ses acquis.
Merci.
Ses acquis anciens. Et c'est cela qui nous plaît, qui nous touche et que, comme a dit Maître Develé.
Merci infiniment, Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud Develé, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes.
Le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham exige des excuses ou l'emprisonnement pour ceux qui le critiquent. Hayat Tahrir al-Sham, qui contrôle la majeure partie d'Idlib en Syrie, applique une tolérance zéro pour les critiques. Le Hayat Tahrir al-Sham a renforcé son emprise sécuritaire sur la population d'Idlib, qui est sous son contrôle dans le nord-ouest de la Syrie. Il a commencé à poursuivre ceux qui s'opposent aux politiques de son gouvernement dans la région, qui connaît un bouleversement populaire en raison des violences du Hayat Tahrir al-Sham, des conditions de vie difficiles et des prix élevés des produits de base tels que le carburant et le pain. Le Hayat Tahrir al-Sham poursuit également ses combattants et ses employés de son propre gouvernement, ne laissant aucune place à la critique, même sur les réseaux sociaux. Si les combattants et les employés ne respectent pas les directives du Hayat Tahrir al-Sham, ils sont soit licenciés, soit arrêtés, et dans certains cas, contraints à se rétracter et de s'excuser. Les Syriens d'Idlib disent toujours que les murs ont des oreilles, car ils craignent que les membres de l'appareil de sécurité affiliés au Hayat Tahrir al-Sham ou les informateurs collaborant avec l'organisation terroriste puissent les entendre s'ils expriment leur opinion ou critiquent le coût élevé de l'essence, du pain, des transports en commun et impôts, par exemple. Beaucoup essaieraient de rester anonymes et de ne pas apparaître devant les caméras lorsqu'ils voudraient critiquer le Hayat Tahrir al-Sham et faire passer leur message. Le Hayat Tahrir al-Sham a forcé des civils à publier des vidéos d'eux-mêmes s'excusant auprès du chef du Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Golani, après avoir critiqué l'organisation terroriste et scandé des slogans contre Golani fin octobre. Dans l'une des vidéos, Abu Abdulaman, un homme âgé qui a été déplacé du gouvernorat de Hama dans le centre de la Syrie et vit actuellement à Idlib, a déclaré « Je m'excuse auprès des hommes honorables du Hayat Tahrir al-Sham ». Des militants ont critiqué ces vidéos en disant que Laban avait été contraint de s'excuser par l'appareil de sécurité du Hayat Tahrir al-Sham. Laban était apparu dans une vidéo lors d'un sitting le 27 octobre auquel des dizaines ont participé près du point de passage de Bab al-Hawa dans le nord d'Idlib pour exiger la libération des détenus dans les prisons du Hayat Tahrir al-Sham et appeler le groupe terroriste à mettre fin à sa campagne militaire contre un autre groupe takfiriste, Jundallah, à Jabal al-Turkman, dans la campagne nord de Latakié, près d'Idlib. Le 27 octobre, le Hayat Tahrir al-Sham a arrêté Laban, mais l'a relâché quelques heures plus tard, tandis que d'autres manifestants sont restés en détention. Il semble que Laban ait subi des pressions lors de son arrestation et était contraint de s'excuser pour avoir protesté contre le Hayat Tahrir al-Sham et son chef. Un autre homme âgé, nommé Abu Ziyad al-Homsi, est apparu dans une vidéo faisant l'éloge de Golani après l'avoir critiqué dans les précédentes. Homsi avait déclaré qu'il avait 61 ans et qu'il n'avait pas les moyens de se nourrir, regrettant les dures conditions de vie à Idlib. Ils nous ont amené ce type inconnu de Golani, et pourquoi avait-il dit ? Homsi avait en outre critiqué Golani, en déclarant qu'il mène une vie normale et confortable dans une belle maison et qu'il est payé en dollars américains. Pendant ce temps, tout le monde lutte pour survivre en raison de la détérioration des conditions de vie, du chômage et de la pauvreté. Dans une autre vidéo, un homme s'est excusé auprès de la société de carburant affiliée au Hayat Tahrir al-Sham, Watad, après l'avoir accusé d'avoir manipulé le poids des bouteilles de gaz. Un conférencier de l'université d'Idlib a déclaré à Al Monitor, sous couvert d'anonymat, « Le Hayat Tahrir al-Sham a récemment intensifié ses pratiques de sécurité répressive contre la population, car elle ne veut pas que quiconque la critique. Par conséquent, seules quelques personnes osent désormais descendre dans la rue, car beaucoup craignent d'être arrêtés. Mais je ne crois pas que cette soi-disant victoire durera beaucoup. Bientôt, le peuple se rebellera contre l'autorité de facto, parce que la population ne peut plus supporter les dures conditions de vie. » Il a ajouté, « Forcer les manifestants à changer leurs propos et à s'excuser publiquement est finalement inutile. Les Syriens à Idlib ont maintenant peur de critiquer le Hayat Tahrir al-Sham et aujourd'hui ils sont obligés de louer Golani, mais cela ne durera pas longtemps. » Fin octobre, des manifestants sont descendus dans les rues des zones contrôlées par le Hayat Tahrir al-Sham dans le gouvernorat d'Idlib, dans la campagne ouest d'Alep et dans les camps proches de la frontière turque, appelant à la libération des détenus des prisons du Hayat Tahrir al-Sham. Le 29 octobre, des manifestants se sont rassemblés après la prière du vendredi dans la ville d'Atarib, dans la campagne ouest d'Alep, scandant « Nous ne voulons pas de Golani ». Des habitants du camp Al-Baraka, près de la ville de Deir Hassan, dans le nord d'Idlib, ont également protesté pour exiger la libération des détenus et demander au Hayat Tahrir al-Sham de dédresser son emprise sécuritaire. L'ancien membre du Hayat Tahrir al-Sham, Ali al-Arjani, a tweeté le 5 novembre « La vérité est une flèche perçante à laquelle l'oppresseur ne peut échapper. C'est pourquoi ils font tout ce qu'il faut pour faire taire les gens, parce que la vérité leur fait peur. » Arjani avait également tweeté le 4 novembre « J'ai demandé à l'un des cheikhs immigrés pourquoi il ne parlait pas de l'injustice et de la tyrannie qui se déroule à Idlib. Il a dit que nos frères étaient poursuivis et arrêtés sans que nous ayons rien dit. Nous craignons donc le pire si nous nous exprimons. » Les takfiristes ouïghours ont été bombardés en Syrie. Ces raids ont visé les sièges du groupe takfiriste, parti islamique du Turkistan, situé dans les abords de la localité de Meshmeshan. Ce groupe takfiriste compte dans ses rangs des terroristes ouïghours qui réclament la séparation de la région autonome ouïghour de la Chine. Ses membres sont venus en Syrie à partir de 2015, depuis la Turquie, et se sont installés dans les villages chrétiens et alaouites abandonnés par leurs habitants. Ils combattent aux côtés de la coalition de groupes terroristes Hayat Tahrir al-Sham, contrôlée par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, alias le Front al-Nusra. Le mois dernier, deux autres milices tchétchènes et azéries, Jundal-Sham et Jundallah, ont vu leurs membres évacués depuis la Syrie vers l'Afghanistan via la Turquie, dans le cadre d'un accord avec le Hayat Tahrir al-Sham.